decurso dalle più grandi difficoltà. Je crois que ce seul paragraphe suffira pour ce soir. Ce que je ne puis faire maintenant est le signe de ce que je ferai plus tard. Le sens de l'impossibilité est le commencement de toutes les possibilités. C'est parce que cet univers temporel était un paradoxe et une impossibilité que l'Éternel l'a créé hors de son être. Vous savez pourquoi cela vous paraît paradoxal? C'est simplement parce qu'il a négligé de mettre les points de repère de la pensée, de vous conduire d'une chose à l'autre. C'est pas autre chose que ça. C'est d'une simplicité presque élémentaire. Et je vais simplement vous dire, vous poser une question, mais enfin je n'attends aucune réponse, vous dire une simple chose. Quand est-ce que quelque chose vous paraît impossible? C'est quand vous essayez de le faire. Si vous n'aviez jamais essayé de le faire, ça ne vous aurait jamais paru impossible. Et comment se fait-il que vous essayiez de le faire? C'est que c'est quelque part dans votre conscience. Si ce n'était pas dans votre conscience, vous n'auriez pas essayé de le faire. Et de la minute où c'est dans votre conscience, il est de toute évidence que c'est quelque chose que vous réaliserez. C'est seulement ce qui n'est pas dans votre conscience que vous ne pouvez pas réaliser. Et si ce n'est pas dans votre conscience, vous n'essayerez jamais de le faire. Simple comme ça. Seulement, au lieu de vous le dire comme ça, il vous le dit d'une façon qui donne un coup de fouet à votre pensée. C'est ça la vertu des paradoxes. C'est ça vous oblige à penser et à réfléchir.
Alors, Usma, qu'est-ce que ça veut dire impossible?
Il n'y a rien d'impossible dans le mot. Excepté ce qui est en dehors de votre conscience. Et comme votre conscience peut croire que ce qui n'est pas dans votre conscience aujourd'hui peut être dans votre conscience après un certain temps, parce que la conscience peut s'agrandir, par conséquent, dans l'éternité du temps, il n'y a rien d'impossible. dans la minute présente, ça je vous ai expliqué une fois. Dans la minute présente, à un moment donné, dans des circonstances données, il y a des impossibilités. Mais au point de vue éternel, dans l'infini du temps, il n'y a rien qui soit impossible. Et la preuve, c'est que tout sera. Toutes les choses, non seulement celles qui sont concevables pour le moment, mais toutes celles qui sont pour le moment inconcevables, toutes non seulement sont possibles, mais seront réalisées. Parce que, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'éternel, l'infini, le suprême, l'absolu, nous lui donnons beaucoup de noms, mais en fait, cet éternel, infini, absolu, et cela contient en soi-même non seulement tout ce qui est et tout ce qui sera éternellement, infiniment. Et par conséquent, rien n'est impossible. Seulement pour la conscience de l'être temporel et objectif, les choses ne sont pas toutes possibles en même temps. Il est nécessaire de concevoir l'espace et le temps pour les rendre possibles. Mais en dehors de la manifestation, tout est simultanément, éternellement, en possibilité, en potentialité. Et c'est ce tout qui est inconcevable, parce qu'il n'est pas manifesté, qui se manifeste pour devenir concevable. Et c'est ça qu'il dit dans sa dernière phrase. C'est parce qu'un univers temporel, c'est-à-dire un univers qui se déroule, un univers qui n'est pas tout en même temps en dehors du temps et de l'espace, un univers qui devient temporel et spatial, un univers qui se succède, qui se déroule. Pour ce qui est en dehors de la manifestation, c'est vraiment une absurdité. Et un paradoxe. C'est la contradiction même de ce qui, pour la conscience temporelle, est impensable, est incompréhensible. Pour cela, qui est incompréhensible pour la conscience temporelle, c'est la conscience temporelle qui est incompréhensible. Nous ne pouvons pas concevoir quelque chose qui ne soit pas dans le temps et dans l'espace. Parce que nous sommes nous-mêmes dans le temps et dans l'espace et que de concevoir, n'est-ce pas, nous essayons une approximation pour arriver à comprendre quelque peu un quelque chose qui n'est pas exprimable et qui soit à la fois tout éternellement et en dehors du temps. Nous pouvons essayer, n'est-ce pas, et nous employons toutes sortes de mots, mais nous n'arrivons pas à le comprendre. À moins que nous ne sortions du temps et de l'espace. Eh bien, en retournant le problème, ce qui est en dehors du temps et de l'espace, pour cela, le temps et l'espace est quelque chose de paradoxal et d'incompréhensible. Et il dit, c'est parce que cet univers temporel était un paradoxe et une impossibilité que l'Éternel l'a créé hors de son être. C'est-à-dire que il a changé son non-existence en une existence. Si vous voulez le mettre sur un ton plaisant, pour savoir ce que c'est. Parce que tant qu'il n'était pas ça, il ne pouvait pas le savoir. Et c'est ça qu'il dit. Pour ce qui est en dehors du temps et de l'espace, le temps et l'espace est incompréhensible. Ça n'existe pas. Ça n'est pas. Par conséquent, il faut que ça devienne le temps et l'espace pour comprendre ce que c'est. Mais nous pouvons en revenir au commencement. Et là, ça devient extrêmement pratique, concret et très encourageant. Parce que nous disons ceci. Pour avoir la notion de l'impossible, que quelque chose est impossible pour vous, il faut que vous l'essayiez. Par exemple, si en ce moment vous avez la notion que ce que je vous dis est impossible à comprendre, ça veut dire que vous essayez de le comprendre. Et si vous essayez de le comprendre, ça veut dire que c'est au-dedans de votre conscience. Autrement, vous ne pourriez pas essayer de le comprendre. Comme moi, je suis au-dedans de votre conscience, comme ma parole est au-dedans de votre conscience, comme ce que Sri Aurobindo aussi a écrit, est au-dedans de votre conscience. Autrement, vous n'auriez aucun contact avec ça. Mais c'est pour le moment impossible à comprendre parce qu'il manque quelques petites cellules dans le cerveau. Pas autre chose que ça. C'est très simple. Et comme ces cellules du cerveau se développent avec l'effort, avec l'attention, la concentration et l'effort. Quand vous aurez bien écouté et que vous aurez fait un effort pour comprendre, eh bien, dans quelques heures ou quelques jours, quelques mois, il y aura un tas de nouvelles circonvolutions qui se seront produites dans votre cerveau et tout ça vous deviendra tout à fait naturel. Vous vous étonnerez qu'il ait pu y avoir un moment où vous ne compreniez pas, c'est si simple. Mais tant que ces circonvolutions ne sont pas là, vous faites un effort, vous pouvez même vous donner mal à la tête, mais vous ne comprendrez pas. Mais seulement, c'est très encourageant, parce que au fond, la seule chose nécessaire, c'est de le vouloir. Et d'avoir la patience nécessaire. Ce qui pour vous est incompréhensible aujourd'hui sera tout à fait clair dans quelques temps. Et notez qu'il n'est pas nécessaire que vous vous donniez mal à la tête tous les jours et à chaque minute pour essayer de comprendre. Il suffit d'une chose très simple, d'écouter aussi bien que vous pouvez, d'avoir une sorte de volonté ou d'inspiration, ou vous pouvez même dire de désir, de comprendre. Et puis, c'est tout. Vous faites une petite ouverture dans votre conscience pour laisser ça entrer. Et ça, votre aspiration fait cette ouverture, comme une petite échancrure, là. Vous faites un petit trou quelque part dans ce qui est fermé. Et puis, vous laissez ça entrer. Ça travaillera. Et ça construira au-dedans de votre cerveau les éléments nécessaires pour être exprimés. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Vous essayez de comprendre quelque chose d'autre, vous travaillez, vous étudiez, vous réfléchissez, vous pensez à toutes sortes de choses. Et puis, après quelques mois, ou peut-être une année, peut-être moins, peut-être plus, vous ouvrez de nouveau le livre et vous lisez la même phrase. Et puis, ça vous paraît aussi clair que de l'eau de roche. Et c'est pas la peine d'essayer à savoir pourquoi, c'est simplement que ce qui était nécessaire s'est construit dans le cerveau. Alors vous ne pouvez jamais venir me dire « Je suis inapte à cette étude, je ne comprendrai jamais la philosophie » ou « Je ne saurai jamais faire des mathématiques » ou « Ça c'est de l'ignorance, c'est tout à fait de l'ignorance. » Il n'est rien que vous ne puissiez comprendre si vous donnez à votre cerveau le temps de s'élargir et de se compléter. Et vous pouvez passer d'une construction mentale à une autre, ce qui correspond à des études, d'une étude à une autre, et les études, ça veut dire des langages, d'un langage à un autre, et construire une chose après l'autre au-dedans de vous, et contenir tout ça et bien d'autres choses, très harmonieusement, si vous le faites avec soin et que vous prenez le temps. Parce que chacune de ces choses correspond à une formation intérieure et que vous pouvez multiplier les formations indéfiniment si vous en prenez le temps et le soin. Je ne crois pas du tout à la limite que l'on ne peut pas franchir. Mais je vois très bien les formations mentales des gens et puis une sorte de paresse devant l'effort nécessaire. Et cette paresse et ses limites, c'est quelque chose comme des maladies. Mais ce sont des maladies guérissables. À moins que vous n'ayez une construction cérébrale tout à fait défectueuse, que vous soyez né avec soit qu'il vous manque quelque chose. Quand vous avez été formé, que quelque chose a été oublié. Alors c'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est vraiment qui est incomplet, qui lui manque quelque chose dans la construction de son corps, eh bien c'est un objet mal réussi. Logiquement, il vaudrait mieux qu'il continue pas à exister, qu'on en prenne les morceaux et qu'on en fasse un autre avec. Mais enfin, ce n'est pas l'habitude. Et ce n'est pas dans les idées humaines ordinaires. Mais, à moins de ces cas qui ne sont pas tellement fréquents, si vous êtes un être normal, eh bien, en en prenant la peine et en sachant la méthode, votre capacité de croissance est presque illimitée. Il y a l'idée que chacun appartient à un type et que, par exemple, le sapin ne deviendra jamais le chêne et que le palmier ne sera jamais le blé, n'est-ce pas, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est une autre chose. Ça veut dire que la vérité de votre être n'est pas la vérité de l'être voisin. Mais dans la vérité de votre être, selon votre construction propre, votre progrès est à peu près illimité. Il n'est limité que par votre conviction qu'il est limité. Et par l'ignorance du procédé véritable. Autrement, il n'y a rien que l'on ne puisse faire. si l'on sait le moyen de le faire. Naturellement, la phrase suivante, c'est l'illustration de ce que l'on vient de dire. Et mais on pourra s'en occuper la prochaine fois, parce que ça. C'est un peu l'illustration de ce que je viens de dire, mais sous un autre angle que l'on pourra voir la prochaine fois. J'y ai répondu. J'ai répondu à ta question complètement. Il est suivi d'une autre question. Question, on demande pourquoi les uns sont intelligents et les autres ne le sont pas. Pourquoi les uns peuvent faire quelque chose et les autres ne le peuvent pas. Mais ça, c'est comme si tu te demandais pourquoi il n'y a pas, pourquoi tout le monde n'est pas pareil. Alors, ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une seule chose qui constituerait, une seule chose répétée indéfiniment qui constituerait tout l'univers. Je ne sais pas, mais ça me paraît que ça ne vaudrait pas la peine qu'il y ait un univers. Pour ça, il suffirait d'avoir seulement une chose. Alors, de la minute où on admet le principe de multiplicité et qu'il n'y a pas deux choses semblables, alors pourquoi demander pourquoi elles ne sont pas semblables? C'est justement parce qu'elles ne le sont pas, qu'il n'y a pas deux choses semblables. Derrière ça, il y a quelque chose d'autre dont on n'est pas conscient, mais qui est très simple et très enfantin. C'est ceci. Puisqu'il y a une diversité infinie, puisque il y en a qui sont d'une manière et qu'il y en a d'autres qui sont d'une moindre manière, eh bien, alors là, on ne se le dit plus. Mais c'est ce qui est là caché dans le fond de l'être, dans le fond de l'ego. Pourquoi moi, je ne suis pas de la meilleure manière? Et alors, ça revient à dire, à se plaindre, qu'il se peut qu'on ne soit pas de la meilleure manière. Si on regarde attentivement la question de ceux qui demandent comme ça, pourquoi il y en a qui ont beaucoup et d'autres qui ont peu? Pourquoi il y en a qui sont sages et d'autres qui ne le sont pas? Pourquoi il y en a qui sont intelligents et que les autres ne le sont pas? Etc., etc. Eh bien, derrière ça, il y a pourquoi je n'ai pas tout ce qu'on peut avoir et je ne suis pas tout ce que l'on peut être. Naturellement, on ne se le dit pas parce que on se trouverait ridicule. Mais c'est là. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter à ce que nous venons de dire, à ce premier paragraphe que nous venons de lire? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ou ce que j'ai dit ou veut quelque éclaircissement? Vous avez tous tout à fait bien compris tout ce que j'ai dit. Personne ne dit bon. Allez. Hein? Eh bien, attendez un siècle ou deux et ça deviendra possible. On vous dit que l'impossibilité d'aujourd'hui, c'est le possible de demain, mais ce sont des demains qui sont très grands. J'ai une autre question concernant ce que je vous ai dit. Je crois que c'était la dernière fois ou une fois avant. Quand on a été, il était question des velléités, l'opposition de la volonté et des velléités. Et que je vous ai dit que les velléités, ce sont des mouvements, ce qu'il appelle velléité, ce sont des mouvements qui ne proviennent pas d'une conscience supérieure descendant dans l'être et s'exprimant en action, mais d'impulsions qui viennent d'influences du dehors. Alors on me demande ce que je veux dire exactement par ces influences, en quoi ça consiste. N'est-ce pas, il était question, et c'était pas là-dedans? Oui, c'est ça. Nous avions gardé le mot volonté pour exprimer ce qui, dans une conscience individuelle, est l'expression d'un ordre ou d'une impulsion venant de la vérité de l'être, de la vérité de cet individu. Son être véritable, son vrai moi, n'est-ce pas? Alors ça, nous l'appelons volonté. Et tout toutes les impulsions, les actions, les mouvements qui prennent place dans l'être, qui ne sont pas ça, nous avons dit que ce sont des velléités. Alors, je vous ai dit, en effet, sans savoir, parfois en sachant, vous êtes mis en mouvement par des influences venant du dehors, qui pénètrent sans même que vous vous en aperceviez, et qui font surgir en vous ce que vous appelez la volonté que telle chose soit ou que telle autre ne soit pas, etc. Alors on me demande quelle est la nature de ces influences et quelque chose, une explication sur le fonctionnement. Naturellement, ces influences sont de nature très diverse. On peut les étudier à un point de vue psychologique ou les étudier presque à un point de vue mécanique. L'un traduisant l'autre généralement, c'est-à-dire le phénomène mécanique se produisant comme une sorte de conséquence du phénomène psychologique. Il y a très peu de gens, et même parmi les meilleurs, il y a très peu de moments dans la vie où la volonté de l'être exprime cette vérité profonde, intérieure, supérieur. La conscience individuelle déborde de beaucoup le corps. Même, nous avons vu que le physique subtil, qui est encore matériel, n'est-ce pas, par rapport à l'être vital, le physique subtil qui, sur certaines conditions, est presque visible, il déborde parfois considérablement la délimitation visible du corps physique. Ceci comporte des vibrations qui sont actives. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, par exemple, si vous avez une pensée, cette pensée est revêtue de vibrations subtiles, il devient une entité qui se déplace et se promène dans l'atmosphère terrestre et pour se réaliser aussi bien qu'elle peut, étant donné qu'elle est une parmi des millions, et que naturellement il y a une interaction réciproque qui fait que les choses ne se passent pas d'une façon aussi simple et aussi schématique. Mais ce que vous appelez vous-même l'être individuel, enfermé dans les limites de votre conscience actuelle, est constamment pénétré par des vibrations de ce genre, venant du dehors, et qui ont le plus souvent le caractère de suggestion, dans le sens que, à part quelques exceptions, l'action est d'abord dans le domaine mental, et puis devient vital, et puis devient physique. Mais ce n'est pas du mental pur que nous parlons, c'est du mental physique, parce que dans la conscience physique elle-même, il y a une activité mentale, une activité vitale et une activité purement matérielle. Et tout ce qui se produit dans votre conscience physique, dans votre conscience corporelle et dans votre activité corporelle pénètre d'abord par des vibrations d'un ordre mental. Par conséquent, sous forme de suggestion. La plupart du temps, ces suggestions vous pénètrent avant que vous en soyez le moins du monde conscient. Pénètrent, éveillent en vous une réponse quelconque et ressurgissent dans votre conscience comme si c'était votre propre volonté, n'est-ce pas ? Votre propre pensée, votre propre volonté, votre propre impulsion. Mais ça, c'est seulement dû au procédé inconscient de pénétration. Ces suggestions sont très multiples, nombreuses, variées, avec des natures très très différentes les unes des autres. Mais on peut les classer dans trois ordres principaux. D'abord, et celles-là sont rarement perceptibles pour une conscience ordinaire. Elles ne deviennent perceptibles qu'à ceux qui ont déjà beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, beaucoup observé, beaucoup étudié leur être. C'est ce que nous pourrions appeler des suggestions collectives. Quand un être naît sur la terre, il naît forcément dans un pays donné et dans un milieu donné. Par le fait de ses parents physiques, il est dans un ensemble social, culturel, parfois religieux, national, un ensemble d'habitude, de penser, de comprendre, de sentir, de concevoir, toutes sortes de constructions qui sont d'abord mentales pour devenir des habitudes vitales et finalement des manières d'être matérielles. Pour le mettre plus clairement, je veux dire, vous êtes né dans une certaine société ou dans une certaine religion, dans un certain pays, et que cette société a une conception collective qui lui est propre, cette nation a une conception collective qui lui est propre, et cette religion a une construction collective qui lui est propre et qui est très généralement très fixée. Vous êtes né là-dedans. Naturellement, quand vous êtes tout petit, vous en êtes absolument inconscient. Mais cela agit sur votre formation. Cette formation, cette lente formation d'heures qui s'ajoutent aux heures, de jours qui s'ajoutent aux jours, d'expériences qui s'ajoutent aux expériences et qui petit à petit construisent une conscience. Vous êtes là-dessous comme vous seriez sous un globe, une espèce de construction qui vous couvre et qui, d'une certaine manière, vous protège, mais de l'autre manière, vous limite considérablement. Tout cela, vous l'absorbez sans même vous en apercevoir, et ça fait une base subconsciente à votre construction propre. Cette base subconsciente agira sur vous toute votre vie si vous ne prenez pas soin de vous en libérer. Et pour vous en libérer, il faut d'abord que vous en soyez conscient, et c'est le premier point qui est le plus difficile. Parce que cette formation a été si subtile, elle a été faite pendant un temps où vous n'étiez pas encore un être conscient, où vous veniez de tomber tout à fait abruti d'un autre monde, dans celui-ci. Et que tout ça s'est fait sans que vous y participiez le moins du monde. Par conséquent, il ne vous vient même pas à l'esprit qu'il y a là quelque chose à savoir, et encore moins quelque chose dont il faille se débarrasser. Et il est assez remarquable que quand on devient, pour une raison quelconque, conscient de l'emprise de cette suggestion collective, on s'aperçoit du même coup qu'il faut un travail très assidu et très prolongé pour arriver à s'en débarrasser. Mais là ne s'arrête pas le problème. Vous vivez entouré de gens. Ces gens eux-mêmes ont des désirs, des velléités, des impulsions qui se traduisent en eux venant de toutes sortes de causes, mais qui prennent dans leur conscience une forme individuelle. pour le mettre d'une façon tout à fait pratique, par exemple, vous avez un père, une mère, des frères, des sœurs, des amis, des camarades. Chacun a sa manière de sentir, de vouloir. De... Et tous ceux avec qui vous êtes en rapport attendent de vous quelque chose, comme vous attendez d'eux quelque chose. Et ce quelque chose, ils ne vous l'exprime pas toujours, mais c'est plus ou moins conscient dans leur être, et que ça fait des formations, si, alors suivant leur capacité de penser, la puissance de leur vitalité, etc., c'est plus ou moins puissant, mais ça a sa petite puissance propre, qui est généralement proportionnée à la vôtre. Et alors, ce que ceux qui vous entourent veulent, désirent, espèrent ou attendent de vous, ça entre comme ça sous forme de suggestion, pas très rarement exprimée, mais qui pénètre sans résistance et qui, au-dedans de vous, tout d'un coup, éveille un désir analogue, une volonté analogue, une impulsion analogue. Ça se passe du matin au soir et aussi du soir au matin, parce que ces choses ne s'arrêtent pas pendant que vous dormez. Au contraire, elles s'accentuent parce que vous n'avez plus la conscience éveillée qui veille et qui vous protège dans une certaine mesure. Ça, c'est général. Si général que c'est tout à fait naturel, et si naturel qu'il faut des circonstances spéciales et des occasions tout à fait particulières pour que vous vous en aperceviez. Naturellement, il va de soi que vos propres réponses, vos propres impulsions, vos propres velléités ont une influence analogue sur les autres. Et que ça devient, n'est-ce pas, un mélange merveilleux où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Si le problème s'arrêtait là, on pourrait encore s'en tirer. Mais il y a une complication. C'est que ce monde terrestre et ce monde humain est constamment envahi par des forces du monde voisin, c'est-à-dire du monde vital, de la région plus subtil, qui est au-delà de l'atmosphère terrestre quaternaire. Et ce monde vital, qui n'est pas sous l'influence des forces psychiques et de la conscience psychique, est un monde essentiellement de mauvaise volonté, de désordre, de déséquilibre, et enfin de toutes les choses antidivines qu'on puisse imaginer. Ce monde vital pénètre constamment le monde physique et étant beaucoup plus subtil que le monde physique, il est très souvent, à part pour quelques rares individus, tout à fait imperceptible. il y a des entités, des êtres, des volontés, des sortes d'individualités dans cet être, dans ce monde-là, qui, eux, n'ont pas toutes sortes d'intentions et qui se servent de toutes les occasions pour s'amuser quand ce sont des petits êtres ou pour faire le mal et le désordre quand ce sont des êtres d'une capacité supérieure. Et ceux-là ont un pouvoir de pénétration et de suggestion très considérable. Et partout où il y a la moindre ouverture, la moindre affinité, il se précipite parce que c'est un jeu qui les amuse. En plus de ça, ils sont très assoiffés ou affamés de certaines vibrations vitales humaines qui ont pour eux la qualité d'un plat rare dont ils aiment à se nourrir. Et alors, leur jeu consiste à exciter ces mouvements dans l'homme pour que l'homme émane ses forces et qu'il puisse en nourrir tout à leur aise. Tous les mouvements de colère, de violence, de passion, de désir, toutes ces choses qui font que brusquement on jette certaines énergies en dehors de soi, qu'on les projette hors de soi, sont justement ce que ces entités du vital préfèrent. Parce que, comme je l'ai dit, ils s'en réjouissent comme d'un plat de luxe. Alors, naturellement, leur tactique est très simple. Ils vous envoient une petite suggestion, une petite impulsion, une petite vibration qui vous pénètre et par contagion ou par sympathie, éveille en vous la vibration nécessaire pour que vous projetiez au dehors la force qu'ils veulent absorber. Là, il est un peu plus facile de reconnaître l'influence parce que si on est le moins du monde attentif, on s'aperçoit de quelque chose qui est soudain éveillé en vous. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de se mettre en colère, eh bien, s'ils ont le moins du monde essayé de contrôler leur colère, ils s'aperçoivent de quelque chose ou qui vient du dehors ou qui monte d'en bas et qui réellement s'empare de leur conscience et les fait agir. Je ne veux pas dire que tout le monde sent comme ça, je veux dire que ceux qui ont essayé de comprendre leur être et de le contrôler, c'est plus facile à apercevoir que, par exemple, la réponse à la volonté d'un, ou au désir d'un être qui est de la même nature que vous, n'est-ce pas, un autre être humain, et qui par conséquent agit sans que ça vous donne clairement l'impression de quelque chose qui vient du dehors. C'est trop analogue, trop semblable dans sa nature, et il faut être beaucoup plus attentif et avoir un discernement beaucoup plus aigu pour se rendre compte que ces choses qui semblent sortir de vous-même ne sont pas vraiment propres, qu'elles viennent du dehors. Mais avec les forces adverses, si on est le moins du monde sincère, et qu'on s'observe attentivement, on s'aperçoit que c'est quelque chose dans l'être qui répond à une influence, une impulsion, une suggestion, même quelque chose parfois de très concret qui entre et qui produit les vibrations analogues dans l'être. Voilà. Maintenant, ça c'est le problème. Le remède, c'est toujours le même. Bonne volonté, sincérité, perspicacité, patience, ou une patience inlassable, et une persévérance qui fait que ce que vous n'avez pas réussi un jour, vous êtes convaincu que vous le réussirez une autre fois, et vous continuez à essayer jusqu'à ce que vous ayez réussi. Et cela nous ramène à la phrase de Shri Aurobindo, que ce contrôle qui peut vous paraître tout à fait impossible aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que non seulement il sera possible, mais qu'il sera réalisé plus tard. Voilà.